pourquoi la rejoindre? Parce qu'elle a le meilleur programme.
Ma philosophie, c'est de dépenser moins pour pouvoir taxer moins, pour que les Parisiens gagnent plus. On sait qu'on a des gens qui pourraient nous mettre, vous et moi, pour des raisons différentes, au goulag s'ils étaient au pouvoir.
Donc j'invite ceux qui nous regardent à aller voir comment est-ce qu'on va battre la gauche en votant pour moi.
Bonjour à tous, bienvenue sur VA+. Aujourd'hui, on est au QG de Reconquête à Paris, où on va aller rencontrer Sarah Knafo, mais aussi voir un peu comment se passe la campagne, comment tout s'organise à l'approche de la date fatidique des élections, du premier tour des élections des municipales. C'est parti.
Hello. Bonjour.
Ça va ?
Ça commence comme ça.
Bonjour Sarah Knafo, merci beaucoup de nous accueillir ici. Alors là, il y a des livraisons derrière, on est dans le QG de Reconquête. Les affiches arrivent. Pourquoi déjà ce slogan, une ville heureuse?
Parce que je suis partie du principe, en écoutant les Parisiens, que les Parisiens étaient devenus tristes dans cette ville pourtant magnifique, et que les décisions de la mairie de Paris avaient réussi à entamer leur morale. Donc mon objectif, c'est de faire une ville heureuse, de montrer le soleil au bout du tunnel, de ce tunnel qui nous a été imposé par 25 ans de socialisme.
Cette couleur jaune aussi, justement, c'est parce que c'est le côté le soleil qui se lève, quelque chose comme ça,
ou c'est qu'est-ce ça, qu'il y a... c'est, on sort du tunnel, il y a le soleil au bout du tunnel. Après, j'ai entendu plein d'autres trucs. J'ai entendu le Tour de France, la coordination rurale, les gilets jaunes. Pourquoi pas ?
C'est vrai que c'est une couleur qui revient quand même énormément dans les derniers mouvements qui ont pu arriver. Et vous, est-ce qu'il y a aussi un côté un peu révolution à votre candidature ? Si vous gagnez, ça change tout ?
Ah oui, c'est clair. C'est clair qu'aujourd'hui, en fait, dans cette élection, vous avez le choix entre soit deux candidats, Chikirou Grégoire, qui vous propose de continuer dans le déclin, de s'enfoncer tout droit dans le déclin socialiste et même communiste. Grégoire est allié avec les communistes, Chikirou, on n'en parle même pas, c'est l'extrême de l'extrême gauche. Et puis à côté, vous avez trois autres candidats, donc Mariani, Dati, Bournazel, qui disent « on va juste en rester là ». On arrête les folies, mais en réalité, c'est le statu quo. Donc ils ne proposent pas d'inverser la tendance, ils ne proposent pas de baisser les impôts, ils disent juste on vous promet qu'ils ne vont pas augmenter. Ils ne proposent pas de rouvrir les voies sur berge, ils disent on va laisser comme ça, on va végétaliser. Ils ne proposent pas de renverser la tendance, ils ne proposent pas de diviser par deux le nombre de fonctionnaires comme je le fais. Donc vous avez soit les candidats du déclin, soit les candidats du statu quo. Mais le statu quo dans le déclin, c'est encore le déclin.
Et alors avant qu'on revienne un peu sur le programme, comment ça se passe ici? Donc on est en plus de Reconquête. Ça fait 2 ans à peu près que je crois que c'est le QG de Reconquête ici. Comment ça s'organise un peu? Qu'est-ce qui se passe ici en fait? Comment marche le
Là, comme vous voyez, il y a énormément de tracts, d'affiches, de matériel de campagne. Là, on vient d'en recevoir un qui s'appelle « Battre la gauche, mode d'emploi ». Donc j'invite ceux qui nous regardent à aller voir comment est-ce qu'on va battre la gauche en votant pour moi. Donc tout le monde est sur le terrain, ils viennent récupérer leurs tracts. Là, je suis avec Laure, qui est ma tête de liste dans le 14e.
Exactement, qui vient récupérer des affiches parce qu'on va aller les coller, parce qu'on nous les arrache. Et tant qu'on nous les arrachera, on les remettra. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas présent.
Dernière ligne droite, donc je pense qu'il y a plus d'un millier de personnes pendant qu'on est en train de parler, qui sont en train de tracter partout dans Paris, sur tous les thèmes. Là, si vous regardez un peu tous les tracts, vous avez tracts donc, sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur les familles. Battre la gauche, mode d'emploi, l'essentiel à quelques jours du vote. Et donc là, on est en plein dedans. Quoi.
Pourquoi la rejoindre? Parce qu'elle a le meilleur programme, parce que ça fait des semaines, des mois qu'on peste tous dans Paris et qu'on ne peut plus bosser, que la circulation s'est devenue insupportable, qu'il y a beaucoup trop de choses qui ne vont pas et que cette ville elle a été saccagée et que j'ai un réveil citoyen en entendant les propos de Sarah, le programme de Sarah, et que je me dis à 50 ans, je peux continuer de me plaindre encore des années ou m'engager. J'ai choisi de m'engager et de la rejoindre. Et aussi parce que dans mon milieu, du show business notamment, il n'y a pas d'artistes qui s'engagent à droite, parce que quand tu t'engages à droite dans le show business, t'es boycotté. Et en fait, moi, j'ai envie d'ouvrir la voie à des gens qui ont besoin et envie de parler, de s'exprimer. Je trouve que voilà, il n'y a plus de liberté d'expression. Dès qu'on dit ce qu'on pense, on est un nazi, un fasciste. Enfin, c'est hallucinant. Et voilà, j'avais envie de... À défaut de pouvoir vraiment changer le monde comme je le souhaite depuis que j'ai 14 ans, ben, au moins je vais pouvoir ouvrir la voie à d'autres et à long terme, je pense que ça changera des choses. J'ai eu beaucoup plus d'encouragement, de messages de soutien et de messages même d'amour que de messages de critiques et d'insultes, etc. Ce qu'on voit, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, c'est pas le monde, c'est la poubelle du monde. C'est-à-dire que t'as beaucoup de gens qui, malheureusement, font beaucoup de bruit, mais ils sont pas si nombreux que ça. Et en réalité, si je compare les deux et que je mets dans la balance le nombre de messages d'insultes et le nombre de messages de soutien, j'ai beaucoup plus de messages de soutien. Et notamment, beaucoup de messages d'artistes qui me disent « Waouh, bravo, t'es courageuse, merci ». merci d'ouvrir la voie, merci de parler.
Des artistes qui sont eux-mêmes de droite et qui ne l'assument pas forcément,
exactement,
justement.
Exactement, des artistes qui sont de droite, qui ne l'assument pas, qui ne sont pas prêts, à mon avis, à l'assumer avant qu'il y ait un vrai changement, mais qui l'assumeront et qui me disent merci, merci d'ouvrir la voie, merci de libérer la parole. Et on peut être de droite et être quelqu'un de respectable.
J'ai l'impression que toi, tu n'as jamais vraiment caché le fait d'être de droite. Quand on voit à la sortie de Garçon, tu t'assumais déjà quand même une proximité avec Zemmour, une proximité avec des idées de droite.
Ça, merci de me poser cette question, parce que ça me permet de remettre les choses dans leur contexte. Au moment où je parle d'Éric Zemmour, on est en 2007. Il a sorti un livre. Donc il n'est pas encore le Éric Zemmour d'aujourd'hui. Il n'était pas du tout encore... Il n'avait pas encore du tout cet engagement politique, etc. Donc il faut remettre les choses dans leur contexte. Quand les gens voient cette interview en 2026 et qu'ils me disent « T'étais déjà d'accord avec Zemmour en 2007 ?» Oui, j'étais d'accord avec Zemmour qui avait sorti son premier bouquin sur plein de points que je trouvais extrêmement intelligents, extrêmement brillants.
Et aussi, comment on passe du coup de chanteuse, de coach en prise de parole, je crois, à candidate? Est-ce que le passage est compliqué ou ça se fait assez naturellement?
Quand j'ai arrêté ma carrière d'artiste, je suis partie en cuisine. J'ai travaillé pendant un an en cuisine chez Guy Savoy. Puis la radio est venue me rattraper parce qu'on m'a fait une proposition. Et à ce moment-là, voilà, j'avais besoin de me réinventer. Je me suis toujours réinventée. J'avais besoin de me reconstruire et de faire quelque chose où, après 4 ans de radio, où je me marrais avec une équipe hyper sympa en matinale et tout, j'avais envie de me servir un peu plus de mon cerveau et de mon acuité intellectuelle, si je puis dire. Donc je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Et à ce moment-là, j'ai une proposition pour devenir coach dans une boîte. Et le mec a vachement insisté en me disant « Mais t'es faite pour ça et tout. » Et j'ai essayé vraiment un peu à reculons au début. Et en fait, je me suis rendu compte que ben, voilà, c'est juste qui je suis. J'ai pas appris à être coach. Je le suis depuis quasiment toujours. Et pareil pour la politique. Si tu veux, c'est la continuité.
Oui, une sorte de suite logique, en fait.
C'est la suite logique. Je passe mes journées dans les entreprises à aider les gens, à régler des problèmes, à régler des conflits, à leur apprendre à s'engager, à prendre la parole, à oser. Bon, ben, pour moi, c'est juste logique quand j'entends les prises de parole de Sarah, de m'engager à ses côtés, parce que je trouve qu'elle porte un discours clair, un message magnifique, des vraies valeurs, un vrai programme. Et j'ai tout de suite contacté Sarah, on ne se connaissait pas du tout. Et je lui ai dit, je trouve tes prises de parole exceptionnelles. Et voilà, je voudrais en être d'une manière ou d'une autre. Et à ce moment-là, elle me dit, mais je suis fan de ta chanson et tout. Et donc voilà, on a sympathisé, on a échangé pendant un certain temps et tout. Et quand elle m'a proposé de m'engager à ses côtés, c'était évident en fait. Je crois que j'ai réfléchi un quart de seconde. J'ai dit oui tout de suite. Et j'ai même pas demandé l'avis des uns, l'avis des autres. Et qu'est-ce qu'on va dire de moi, etc. Est-ce que ma chanson va être grillée, pas grillée? Je m'en fous en fait.
Alors aujourd'hui, je suis fière d'avoir Laure à mes côtés. Et il nous reste à dire à tous ceux qui se permettent de harceler des femmes dans Paris.
Alors mon grand, c'est pas comme ça qu'on parle aux gens, tu n'aimerais pas qu'on parle comme ça à ta maman.
Et je vais te dire une dernière chose. Moi, pour moi, dans ce monde, il y a deux catégories de personnes. Il y a les gens qui agissent, il y a les gens qui commentent. Moi, j'ai toujours fait partie de la catégorie des gens qui agissent. Et si tu commences à te préoccuper des gens qui commentent, tu ne fais plus rien.
Alors, c'est votre première campagne comme tête de liste. Qu'est-ce que ça change concrètement, en fait, pour vous, dans la manière de faire campagne, même en question de pression, de responsabilité, même envers les électeurs?
D'abord, c'est une joie de faire cette campagne. Quand on a décidé que la campagne s'appellerait Une ville heureuse, je ne pensais pas que la campagne serait elle-même aussi heureuse. Donc avoir comme ça des centaines, maintenant plus d'un millier de militants qui sont à mes côtés, qui tractent avec leurs écharpes jaunes, avec leurs casquettes jaunes quand il fait beau, puisqu'en ce moment on a de la chance, c'est une joie et je pense que ça se ressent. Quand les gens nous voient sur le terrain, ils se disent « bah voilà des gens à qui on a envie de faire confiance ». Des gens qui sont joyeux. Quand on voit le reste de la classe politique, franchement, ils sont tellement ternes, tellement déprimants, ils sont tous gris, répètent les mêmes choses depuis 40 ans. Donc je pense qu'il y a un vrai changement dans cette campagne que les gens ressentent et qu'on est en train de prouver par la campagne ce qu'on a envie de mettre en œuvre une fois au pouvoir. Donc d'une part, il y a ce côté ville heureuse, obligation de résultat pour la politique, de créer les conditions du bonheur, mais aussi beaucoup de sérieux. Et je trouve qu'on réussit à combiner les deux dans cette campagne. J'ai le sentiment que c'est inédit. Et on ne le doit pas qu'à moi, donc je ne suis pas en train de me jeter des fleurs, mais à tous ceux qui m'entourent, à mon équipe, à mes militants qui sont toute la journée sur le terrain, à ceux qui sont en train de passer des coups de fil pour convaincre, à ceux qui tractent, à ceux qui militent sur les réseaux sociaux, c'est grâce à eux. Donc je trouve qu'on est en train de créer un truc assez unique, à savoir une campagne joyeuse, mais qui n'est pas du tout enfantine. Parce qu'on parle de sujets sérieux, parce que typiquement proposer 10 milliards d'économies, tout chiffré, tout budgété, faire un programme de 130 pages, tout le monde peut aller voir sur unevilleheureuse.fr parce qu'il y a tous les détails. Personne n'a fait cet effort.
Votre opposant du RN vous reproche justement le côté un peu trop joyeux, un peu enfantin, comme vous disiez là. Sur l'IA notamment, il a fait une parodie en disant « Non, non, mais Paris demande du sérieux. »
Alors ensemble, c'en est tout, on écrit Paris.
qu'est-ce que vous lui répondez là-dessus
Où est son programme sérieux? Si Paris demande du sérieux, qu'a fait Monsieur Mariani? Moi, j'ai lu son programme, c'est ni fait ni à faire. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de chiffrage, il n'y a pas de trajectoire budgétaire, c'est ça le sérieux. Si Paris demande du sérieux, Monsieur Mariani, il était élu, je pense que j'étais en train de passer mon brevet des collèges, il était déjà élu. C'est où, depuis tout ce temps, le travail? On a failli attendre. Moi, j'ai pas vu de chiffrage, j'ai pas vu de proposition sérieuse, innovante, j'ai rien vu. J'ai pas vu d'innovation. Je parle de Monsieur Mariani, le pauvre, je pourrais citer tous les autres. Hein. Monsieur Bournazel, la droite parisienne, Grégoire, son programme, 30 pages, que des images. C'est facile de lire, on dirait un manuel pour enfants. Moi, j'avoue, faut se concentrer un peu. Et encore, c'est intéressant, donc les gens découvrent des solutions pour leur propre vie. Donc vous avez plein de photos, il y a plein de couleurs, hein, c'est bien. Il n'y a pas un chiffre, c'est pas sérieux. Un programme pas chiffré, c'est un programme qui ne compte pas. Quand vous ne budgétez pas vos mesures, ça s'appelle une liste de souhaits. Pourquoi est-ce que moi, qui suis la dernière arrivée dans cette campagne, je vois que les médias m'appellent la benjamine de l'élection, bon, soit, je suis la première à proposer un programme, 130 pages, personne n'a fait cet effort, personne n'a eu ce sérieux. Quand je propose une simulation de pouvoir d'achat, combienjegagne.fr, et que je dis aux gens, allez voir combien vous allez gagner avec mon programme, personne d'autre ne l'a fait. D'ailleurs, dans toute la classe politique, hein, même nationale, personne d'autre ne l'a fait. Mais pourquoi? Parce que leur philosophie, c'est toujours d'augmenter les impôts, toujours d'augmenter les dépenses. Et quelles sont leurs attaques? Ils me disent, c'est pas sérieux de vouloir baisser les impôts. C'est pas sérieux de proposer autant de milliards d'économies. Mais qu'est-ce qui est sérieux? C'est d'endetter la ville jusqu'à 10 milliards? Ce qui n'est pas sérieux, ce qui est déraisonnable, c'est de ne pas proposer autant d'économies. Donc oui, vous avez raison de dire c'est révolutionnaire mon programme, parce que enfin la droite assume qu'on va défaire ce qu'a fait la gauche et qu'on va faire mille fois mieux et qu'on va rendre les gens heureux. Et c'est mon ambition. Ils ont fait exploser les impôts, je vais les diviser par deux. Ils ont fermé les voies sur berge, je vais les rouvrir. Ils ont limité le périphérique à 50 km/h, je vais le rétablir à 80 km/h. Et sur tout le reste, je vais être beaucoup plus moderne que ce qu'a fait la gauche. Moi, je propose un nouvel âge d'or. Je propose pas de revenir en arrière, je propose de créer le nouvel âge d'or de Paris. Je vous le disais, de projeter Paris dans 2050, en réalité, de créer un plan Haussmann 2.0, de redevenir ce que Paris a été, phare du monde, ville lumière, et de tout faire pour mettre en œuvre ce programme.
Vous parlez de rendre les gens heureux, vous en avez beaucoup rencontré des gens, justement des Parisiens. Pourquoi ces rencontres à ce moment-là? Et est-ce qu'il y en a une ou deux des anecdotes qui sont arrivées qui vous ont particulièrement marqué, quelque chose qui ressort vraiment de ces moments-là, de ces échanges?
Ouais. La première chose, pour vous répondre, pourquoi est-ce que j'ai tenu à ce point à être parmi les Parisiens? J'ai dit dès le premier jour, je crois que c'était au JT de TF1, je veux gouverner Paris comme on gouverne la Suisse, c'est-à-dire avec ses habitants. Mon ambition, c'est de gouverner par référendum, de pouvoir solliciter les Parisiens sur tous les grands sujets qui les concernent. Je pense qu'on aurait évité beaucoup d'erreurs politiques si la classe politique, y compris à l'échelle nationale, avait sollicité l'avis du peuple plutôt que de faire tout seul dans un bureau. Deuxième élément, quand on s'appuie sur la légitimité populaire, on a beaucoup plus de force pour faire passer des réformes. Quand on s'appuie sur le référendum, demain, les fonctionnaires, les grévistes, les cégétistes qui s'opposeront à mes décisions ne s'opposeront pas à moi toute seule dans mon bureau. Ils s'opposeront au peuple tout entier. Et ça, c'est un élément majeur, la légitimité des décisions. C'est ce qui permet de mettre en œuvre des réformes parce qu'on s'appuie sur la volonté populaire. Donc moi, c'est ce que je veux faire. C'est pour ça que j'ai commencé ma campagne parmi eux, que je l'ai continuée parmi eux et que je vais la finir parmi les Parisiens. Deuxièmement, vous me demandiez ce qui m'a le plus marqué.
Ouais, s'il y a des moments, il y a forcément des moments humains qui doivent être assez forts, des gens parfois qui n'en peuvent plus ou qui ont beaucoup d'espoir, un rêve, je ne sais pas.
Le plus fort pendant ces dernières semaines, c'est le véritable traumatisme que connaissent les familles parisiennes avec tout ce qu'on entend dans le périscolaire, des affaires d'agression sexuelle sur des enfants, des animateurs qui sont pris sans vérification, qui se retrouvent dès le lendemain au contact des enfants, avec parfois le sentiment, même les questions qui se posent, c'est mais est-ce qu'il y a un réseau? Est-ce qu'il y a un réseau de pédocriminalité? Comment est-ce possible qu'on entende tellement de choses? Comment est-ce possible qu'il y ait eu 52 cas dans Paris, que tous les jours on découvre de nouvelles choses? À l'école Saint-Dominique, dans le 7e, en ce moment, il y a un véritable traumatisme, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a eu une omerta. On a de vrais traumatismes. Je ne sais pas si vous avez vu, y compris Hugo Clément, qui parlait de dessins, c'est abominable, franchement, j'ose même pas en parler, de dessins d'enfants traumatisés.
Oui, qui racontent, on comprend qu'ils ont été traumatisés, ce qu'ils ont vécu via leurs dessins, qui est une manière pour eux de s'exprimer.
Dessine, donc, des affaires sexuelles, je ne vais pas détailler parce que franchement ça donne des haut-le-cœurs pour ceux qui sont parents et j'en suis. Alors maintenant j'en viens quand même aux solutions parce que c'est aussi à ça que ça nous oblige. Donc moi ce que je dis c'est que demain, si je suis élue maire de Paris, la première mesure c'est sur le périscolaire, c'est l'urgence. Imposer immédiatement la vérification pour chaque personne qui se présente pour être au contact des enfants, de l'inscription au fichier des agresseurs sexuels, de manière régulière, périodique, c'est-à-dire pas une fois pour toutes et puis après on le fait pas, mais tous les 3 mois, et continuer la vérification. Deuxièmement, on a une mairie de gauche qui a gouverné avec les écolos, qui en principe sont très friands du principe de précaution. Sauf quand ça concerne la prunelle de nos yeux. Là, il n'y a pas de principe de précaution. avec moi au moindre doute, au moindre soupçon, à la première phrase d'un enfant sur un animateur qui peut lever le doute, on exclut la personne.
Vous n'avez pas peur que ça puisse aller trop loin aussi, parfois
c'est aujourd'hui que ça va trop loin. Au moindre doute, on doit exclure. Deuxième sujet, je ne veux plus qu'on passe par des associations pour les animateurs, parce que là, ça crée un filtre entre la mairie et les animateurs, des associations qui peuvent mettre à disposition des animateurs. Je veux qu'on arrête ces partenariats, c'est dangereux, ça fait peur. On ne sait pas qui ils sont, on ne les contrôle pas, on ne les maîtrise pas. Troisième chose, j'en finis par là, quand je demande aux parents, dans toutes mes rencontres, quelles sont les personnes dans lesquelles vous avez le plus confiance pour garder vos enfants ? Ce qui revient le plus, c'est les grands-parents. On a confiance dans les grands-parents. Donc ce que je propose, c'est de faire appel à ce vivier de grands-parents aujourd'hui parisiens qui parfois en plus subissent des problèmes de solitude, de pouvoir d'achat. On peut résoudre plusieurs problèmes en un seul. La confiance à l'école. Parce que demain, si vous savez qu'il y a le grand-père d'une amie de votre fille, la grand-mère d'une amie de votre fille, ça vous rassure. Vous vous dites, il y a un tiers de bienveillance qui se retrouve à l'école. Deuxièmement, ce sont des gens qui pourront être payés à la vacation. On parle d'un mercredi après-midi, 4 heures par semaine. On ne parle pas de les faire devenir soudain des animateurs du périscolaire ad vitam. Un complément de pouvoir d'achat pour eux. Ils ne vont pas devenir fonctionnaires, mais à la vacation, ils peuvent être payés. Et ce problème de solitude, ils sont un réservoir de transmission. Beaucoup de parents adorent cette mesure, la plébiscite. Et quand je parle aux grands-parents et que je leur dis « Mais est-ce que vous y seriez prêts ?» Les grands-parents me disent « Mais on adorerait. On verrait comment notre petite fille est à l'école, comment notre petit-fils se comporte avec ses copains. On adorerait faire ça. Une fois par semaine, il y a un roulement avec une professionnelle. » Et un grand-parent qui est là pour assurer de la bienveillance. Donc voilà, le sujet du périscolaire, c'est ce qui est le plus revenu.
Et alors, sur un autre registre, vous parliez tout à l'heure des centaines de militants avec vous, puis maintenant plus d'un millier, de ce que vous nous dites là. Ces militants, est-ce qu'il y a des quartiers, on pense au 20e arrondissement par exemple, qui sont vraiment des bunkers de gauche, hein, voire même Antifa, enfin, où c'est très très présent. Est-ce qu'ils ont des difficultés là-bas ? Comment ça se passe pour eux ?
Avec les Parisiens, ça se passe très bien. On est super bien accueillis partout. Les gens sont très curieux, ils se demandent quel est ce tract coloré. Mmh. Ah, on a reconnu, c'est la couleur de Sarah Knafo. Donc ça suscite beaucoup de curiosité ou d'engouement ou d'adhésion, selon. Hein. Je ne vais pas vous dire que partout, les gens votent pour moi, etc. Mais en tout cas, quel que soit le quartier, moi par exemple, j'ai fait campagne à toutes les portes de Paris, porte de Clichy, porte de Clignancourt, porte Dorée, et à chaque fois, y compris dans des arrondissements réputés difficiles pour la droite, ça se passe très bien.
En tout cas, il y a du respect,
Et il y a un phénomène qui permet ça, c'est le changement du mode de scrutin. Mmh. Avant, vous votiez pour votre maire d'arrondissement, et ensuite, c'était par un système des grands électeurs qu'on choisissait.
Un peu à l'américaine.
Et aujourd'hui, les électeurs choisissent directement le maire de Paris. Donc, ils votent deux fois. Ils votent une fois pour le maire d'arrondissement, et une fois pour la mairie centrale. Donc moi, j'ai des candidats dans tous les arrondissements parisiens, et ensuite, on peut voter pour moi en plus à la mairie centrale.
Et pour vous, du coup, juste sur cette partie un peu antifa, etc., ça n'a pas non plus abîmé la motivation des militants dans ces quartiers-là ? Ils y vont quand même ? Vous continuez à être présent aussi dans ces quartiers ?
Franchement, plus que jamais. On a vu avec l'affaire du meurtre de Quentin à quel point, en face, ils étaient décidés et prêts à tout. Mais je crois que ça n'a pas entamé...
Oui, ça n'a pas fait peur aux gens, finalement. Ouais. En fait, ça les a motivés quelque part.
Et vous non plus, et tous ceux qui vous écoutent non plus, ça n'a pas entamé nos déterminations. Au contraire, on sait qui on a face à nous. On sait qu'on a des gens dangereux. Des gens qui sont en train de respecter une idéologie qui a fait 100 millions de morts. On sait qu'on a des gens qui pourraient nous mettre, vous et moi, pour des raisons différentes, au goulag s'ils étaient au pouvoir. Je pèse mes mots, hein, je ne suis pas en train de faire des formules. On a des gens dangereux en face de nous, qui traitent de nazis un homme qui vient de trouver la mort. Face à ces gens-là, est-ce qu'il faut baisser la tête ? Sûrement pas.
Vous parliez tout à l'heure du fait que la mairie de Paris, en étant de gauche, a rendu les Parisiens tristes, malheureux. Quelle est pour vous, s'il y a une grosse erreur, un symbole de cet échec, selon vous, à retenir des mandats d'Anne Hidalgo ? Quelle serait-elle ?
Si je dois vous parler de symboles et de ce qu'on voit tous les jours, je parlerai de la beauté de la ville. Paris, pour tous les Français, pour les touristes du monde entier, c'est la ville du patrimoine français. On a des églises sublimes, on a un patrimoine religieux magnifique. Donc la beauté de la ville, c'est un trésor, c'est un joyau. On ne peut pas la laisser comme ça se saccager, être saccagée par la gauche. Donc ce Paris magnifique, il est saccagé par la gauche, par toutes les façons possibles. Faute de goût, ou par mauvais goût plutôt. Tout à l'heure, je vous disais des plugs anales sur la place Vendôme, des grenouilles géantes gonflées, qui se dégonflent et qui sont battus par la pluie. C'est ça, le pari qu'on propose. Les tulipes atroces de Jeff Koons qu'on installe, une fortune d'ailleurs, prétendument un cadeau qui nous coûte très cher comme cadeau juste pour lui faire sa pub. En réalité, on a hérité d'une ville magnifique, on doit la protéger, on doit la sublimer. La philosophie, c'est que tout bâtiment nouveau, nouvellement construit, doit s'insérer harmonieusement dans ce qui existe. Donc moi, ce que je dis, c'est que bien sûr, on peut rénover, et on doit rénover, bien sûr qu'on doit utiliser les matériaux les plus modernes, qui permettent l'isolation, etc. Mais il faut respecter l'identité architecturale de Paris. Donc le sens du beau, je finis sur ça. Je pense que l'esthétique est une politique. Quand vous regardez là où les touristes viennent, Airbnb, c'est ça qui est plébiscité par tout le monde. Les touristes français comme les touristes étrangers. Ils viennent voir ce qu'on a créé de plus beau au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. Pas ce qu'a fait Le Corbusier avec son idéologie fonctionnaliste qui visait à dire plus d'ornements, plus de moulures, plus de cheminées, plus les parquets. Tout ça, ça sert à rien, c'est de la décoration, il faut passer à du purement fonctionnel. C'est ça l'idéologie des années 70. Ça a fait beaucoup de mal à la beauté de la France. Et moi, ce que je veux faire, c'est une vraie politique du beau.
Vous parlez d'investissement, vous parlez aussi d'économie, beaucoup. Oui. Alors, vous prévoyez de diviser par deux, normalement, le nombre de fonctionnaires municipaux en 10 ans. Oui. Alors, au-delà de cette annonce-là, quels services municipaux disparaîtraient ou seraient externalisés, selon vous, là, dans les priorités ?
La première chose qu'on m'a apprise quand je suis arrivée à la Cour des comptes, c'est que quand on devait diviser la masse salariale dans une administration, il fallait regarder en premier le turnover de cette administration. C'est-à-dire combien de personnes partent naturellement chaque année. À la mairie de Paris, c'est 3500 personnes qui partent naturellement chaque année. C'est-à-dire pas de plan de licenciement, il ne s'agit pas de mettre les gens au chômage. Hein. Des gens qui soit partent à la retraite, 1800 personnes en moyenne chaque année, fin de contrat, fin de CDD, ou des gens qui tout simplement vont ailleurs, dans l'administration, dans l'entreprise, ou peu importe. En tout cas, des gens qui quittent la mairie naturellement, 3500 tous les ans. À horizon de 10 ans, vous voyez que c'est 35 000 personnes qui sont parties. Sur ces 3500 chaque année, l'écrasante majorité, donc toutes directions confondues, je ne les remplace pas. À part dans deux domaines que je juge prioritaires et sur lesquels, c'est la seule fois que vous allez m'entendre pour dire ça, il manque de monde, c'est la police municipale et la petite enfance. Là, il faut recruter. Il n'y a que dans ces deux secteurs qu'il manque de monde. Sur le reste,
tout le reste, vous voulez diminuer de partout.
On peut diminuer partout. Pour vous donner un exemple, 84% des Parisiens estiment que la ville est sale. Tout le monde, je pense, s'entendra pour dire qu'on est plus en insécurité à Paris aujourd'hui qu'on ne l'était il y a 25 ans. Que la ville est moins belle, que la ville est moins bien entretenue, que les jardins publics municipaux sont moins bien entretenus, etc. etc. Donc sur tous ces aspects, on s'aperçoit qu'avoir fait plus 12 000 fonctionnaires, ça n'a rien résolu. Et s'il fallait une preuve, depuis 15 ans, Paris a perdu 200 000 Parisiens. Imaginez, plus il y a de fonctionnaires, moins il y a de Parisiens. C'est quand même aberrant de se dire ça. Sauf que personne ne dit qu'il faut inverser la vapeur. Comme d'habitude, la fausse droite, les socialistes de gauche, les socialistes de droite, ils vous disent « Ah oui, c'est vrai que c'est un peu un problème », mais à la fin, ils font rien, ils proposent rien. Donc moi, ce que je propose, c'est de diviser par deux les effectifs de la ville de Paris en ne remplaçant pas ceux qui s'en vont, et deuxième élément, en privatisant certaines missions. La propreté sur la voirie et la collecte des ordures ménagères. Donc on va améliorer tout ça. Ces personnes qui aujourd'hui font leur travail, le font correctement, mais sont dans un système fou. Aberrant, qui est celui de la ville de Paris, qui ne contrôle rien, qui ne manage rien. Clause de reprise du personnel pour aller dans le secteur privé, ce sera plus propre, ce sera mieux fait et ce sera moins cher. Et donc, comme je vous ai dit, 6 000 effectifs.
Vous avez déclaré assez récemment que le seul vote utile, c'était Sarah Knafo.
Tout à fait.
Alors pourtant, malgré quand même votre dynamique très importante dans les sondages, vous êtes crédité de 12% et Rachida Dati se maintient à peu près autour de 28-30%. En quoi, du coup, voter pour vous est le vrai vote utile ?
Ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, vous avez donc une Rachida Dati qui est 27-28 plutôt dans les derniers sondages et Emmanuel Grégoire 35. Manifestement, seule, elle perd. Quels que soient les sondages, quelles que soient les hypothèses, seule, elle ne peut pas gagner. Quand j'ai commencé ma campagne, j'étais à 4, Rachida Dati était toujours à 27. Elle est restée à 27, moi je suis passée de 4 à 12. Donc je ne lui ai pas pris de points. Et ce qu'on observe, je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, quel que soit le candidat, même si c'était moi en tête, je dirais la même chose. Il ne s'agit pas de dire ça parce qu'aujourd'hui, c'est Dati. Personne ne peut gagner seul contre la gauche. Grégoire est à 35, à côté on a une Chikirou à environ 10, moi aujourd'hui à 12, mais j'espère que je continuerai de monter. Dans tous les derniers sondages, j'ai continué de prendre des points. Rachida Dati, 27. Bon, mathématiquement, vous voyez que si on est ensemble, ça gagne. J'ai fait passer les voix de la droite de 27 toute seule à 39. Donc on dépasse la gauche aujourd'hui. Comment on va faire pour gagner ? Il faut arriver en tête au second tour. Il faut qu'une candidature de droite arrive en tête le soir du second tour, le 22 mars. Pourquoi je suis le vote utile ? Parce que sans alliance, on perd. Et je suis la seule à proposer l'alliance. Je suis, pour beaucoup de gens, une garantie que la ville de Paris passe vraiment à droite. Et là, je réponds à votre question. On a besoin d'une garantie. Est-ce que ce sera une alternance molle ou est-ce que ce sera une vraie alternance ?
Pour vous, Dati, ce serait l'alternance molle, si on vous comprend bien.
Si elle refuse l'union, on comprendrait qu'elle ne veut pas gouverner à droite. Ça voudrait dire que pour elle, aujourd'hui 12%, peut-être demain plus, des électeurs sont des électeurs à rejeter. C'est ce qu'on comprendrait. Donc aujourd'hui, ce que je dis, c'est que pour tous les électeurs qui veulent vraiment que la ville passe à droite, je suis le vote qui garantisse l'alternance.
Et alors, imaginons, là, on voyage donc en l'entre-deux-tours. Vous êtes au second tour, mais peut-être pas aussi haut que vous l'espérez. Et il y a cette histoire d'alliance qui se pose avec Dati, qu'il refuse pour le moment. Si Pierre-Yves Bournazel se retire dans l'entre-deux-tours pour faire gagner en effet Dati, sans forcément une alliance, mais il se retire, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites, vous ? Est-ce que vous seriez prête à vous retirer pour qu'une forme de droite, même plus molle selon vous, gagne quand même à Paris, ou on prend le risque d'avoir la gauche ?
Sincèrement, je n'arrive même pas à me mettre dans l'hypothèse où on refuserait l'union. Ça voudrait dire qu'on refuse la victoire. Je ne peux pas comprendre qu'on refuse l'alternance après 25 ans de déclin socialiste. Il faut comprendre, dernier chiffre, qu'aujourd'hui, si vous additionnez Mariani, Bournazel, Dati et moi, ça fait 56% des voix. Donc, chose à entendre, la droite et le centre-droit, mettons, est majoritaire à Paris. Premier phénomène. Ça fait des années qu'on croit que Paris est perdu. Ça fait des années qu'on se dit que c'est une ville bobo, que la gauche a tout fait pour travestir le mode de scrutin, etc. Et là, miracle, il y a une telle volonté d'alternance que Paris peut gagner à droite. C'est un miracle. Si quelqu'un empêche cette union qui nous emmène à la victoire, ce serait irresponsable. Ce serait 100% de la faute de cette personne si la droite perd. On est majoritaire. Si on perd, c'est qu'il y a un responsable.
Vous gagnez l'élection. Quelles sont vos deux, trois priorités en quelques mots pour vos 100 premiers jours au pouvoir ? C'est quoi les 100 premiers jours de Sarah Knafo qui dirige Paris ?
Donc, j'arrive à la mairie de Paris. La première chose à faire, c'est de diviser par 3 le nombre d'adjoints de la ville de Paris. Madame Hidalgo a 32 adjoints. Moi, je veux en avoir 10. Donc, premier jour, nommer une équipe de choc pour gouverner la ville
de Paris.
Et plus
réduite, du coup.
10 personnes, ultra compétentes, sur des domaines bien précis, pour permettre le redressement de la capitale et entamer le redressement. Comme ça, dans les 100 premiers jours, tout le monde sera au travail. Ensuite, vous avez évidemment les sujets de division des impôts par deux et d'économie. Donc, je prépare le premier budget. Je permets cette division par deux de la taxe foncière et des deux taxes qui pèsent sur les locataires dès le premier budget. C'est-à-dire que le prochain avis d'imposition que recevront les Parisiens sera un avis où ils auront leur taxe foncière divisée par deux. Ma philosophie, c'est de dépenser moins pour pouvoir taxer moins pour que les Parisiens gagnent plus. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que le pouvoir d'achat, c'est pas l'argent que l'État vous donne, c'est l'argent qu'il ne vous prend pas. Quand l'État vous prend autant d'argent, quand la mairie de Paris vous prend autant d'argent, quand les pouvoirs publics vous prennent autant d'argent, c'est autant de pouvoir d'achat que vous n'avez pas. Donc, dans les 100 premiers jours, réussir à revitaliser Paris, revitaliser la ville, donner envie aux familles de fonder un foyer à Paris, en levant tous les verrous qui pèsent sur les familles.
Alors, on a parlé là des 100 premiers jours au pouvoir de Sarah Knafo, vos espoirs de victoire. Est-ce que cette campagne et cette potentielle victoire, il n'y a pas quand même un petit air de tremplin pour 2027, d'autant qu'on vous voit absolument partout en ce moment. Éric Zemmour se fait un peu plus discret. Voilà, il y a beaucoup de Français qui se posent quand même la question, qui se posent des questions sur l'avenir de Reconquête. Qu'est-ce que vous auriez à leur répondre ?
Alors, premièrement, il est partout en France pour soutenir les candidats. Donc aujourd'hui, il est à Menton. La semaine dernière, il était en Corse. Et il est presque tous les jours sur le terrain pour aller soutenir les candidats de Reconquête au municipal. Donc il y a un grand besoin de lui. Beaucoup de gens font appel à lui pour avoir son soutien dans les élections municipales. Deuxième chose, vous dites « on vous voit partout ». Bah, je me souviens que vous disiez la même chose l'année dernière. On vous voit partout. Donc je ne crois pas que j'avais besoin d'une campagne municipale pour passer à la télévision. Je passais déjà.
Oui, mais c'est la première fois que je fais une élection en votre nom directement, pas dans une liste.
Ouais. En fait, pour moi, redresser Paris, c'est un objectif en soi. C'est pas une étape, c'est pas un objectif intermédiaire, c'est pas un tremplin, c'est un objectif en soi. Ce que je veux vraiment demain, c'est redresser Paris. Je pense, et là je vais vous donner raison, il y a un impact national. Je pense que si on montre qu'on peut redresser la capitale, ça veut dire que le redressement de toute la France est possible. Je pense, modestement, que la campagne qu'on est en train de mener à Paris donne un espoir à beaucoup de gens au-delà des frontières du périphérique. Ils se disent, si on arrive à faire ces scores-là, si on arrive à faire de gros scores à Paris, mais ça veut dire que tout est possible. Ça veut dire que le redressement de la France entière est possible. Encore une fois, on pensait que c'était perdu, Paris. On se disait, maintenant, c'est une ville de gauche, les capitales, on peut oublier, ce sera toujours des gauchistes. Non, pas du tout. On peut gagner Paris. Donc ça, oui, ça aura un impact national qui dépasse les frontières du périphérique. On se dira, voilà, le redressement est possible. Les Français attendent ça. Plus je suis haut le soir du premier tour, plus l'union des droites est possible. Donc le seul vote utile, c'est de voter 1 pour vos convictions, 2 avec votre cœur, 3 par stratégie pour faire gagner la droite à Paris. Merci à vous.